explorer de nouveaux mondes étranges.
Ah, la vie, quel spectacle!
L'homme de science a toujours été un aventurier.
Je suis prêt.
Le temps d'un bivouac!
Une immense gifle d'absolu. C'est ce que ressent Lydie l'Escarmentier lorsqu'elle voit pour la première fois la mer se transformer en un gigantesque champ de glace à l'approche du continent antarctique. À tout juste 23 ans, elle participe alors à une expédition scientifique pour observer l'évolution d'un glacier. Cette expédition est la première d'une longue série pour notre jeune glaciologue qui est loin de se douter des aventures et des mésaventures qu'elle va vivre dans cet univers à part où les humains ne font jamais que passer. En Antarctique, les choses se déroulent rarement, comme prévu. Lydie l'Escarmentier va en faire l'expérience. Dans un livre intitulé « La voie des pôles », paru chez Flammarion, elle raconte ce qu'elle a vécu dans les glaces polaires, les moments de plénitude et les coups du sort, parfois tragiques. Cet après-midi, Lydie l'Escarmentier nous emmène aux confins de l'océan austral, là où naissent les icebergs. Et en fin d'émission, comme tous les lundis, nous retrouverons Éric Birloez pour une nouvelle odyssée savoureuse. Aujourd'hui, il nous racontera le long chemin qu'a parcouru l'ail avant d'arriver dans nos recettes et nos assiettes. Voilà pour le sommaire de cette émission, préparée par Claire Tesser et réalisée par Hélène Kouyoumjian et Étienne Bertin, avec à la technique Michel Bézikian. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Là, on a un vent de 30 nœuds d'ouest. Il y a une mer 6, à peu près des creux de 4 mètres. La météo est jamais très clémente, c'est toujours un peu agité. Les dépressions tournent autour de l'Antarctique, les unes après les autres, sans jamais être arrêtées par un continent, parce que c'est que de l'océan, quoi. C'est pour ça qu'elles sont méchantes et que la mer est formée jamais très très calme.
Bonjour Lydie l'Escarmentier.
Bonjour Daniel.
Nous venons d'entendre le commandant de bord de l'Astrolabe, François Tristram, en 2019, au micro de Nicolas Martin de France Culture. Lydie l'Escarmentier, ce brise-glace, l'Astrolabe, vous l'avez pris plusieurs fois pour atteindre l'Antarctique. Et la première épreuve, quand on monte à bord de ce bateau, c'est d'affronter cette mer terriblement agitée.
Oui, tout à fait. Et en plus, on s'y attend pas trop parce qu'en fait, on embarque sur le bateau et on va descendre d'abord la rivière Derwent qui sort d'Hobart. Ouais. Et donc, on avance tout doucement. On a l'impression que tout est calme.
Donc
et
là, on est en Tasmanie.
En Tasmanie, oui, tout à fait. Ouais. En Tasmanie. Et d'un coup, on arrive, on laisse les côtes de la Tasmanie, on arrive dans l'océan. Et moi, je me rappelle que mon tout premier embarquement, j'étais en train de prendre mon repas quand la mer a commencé à se former. Et j'ai pas fini mon repas. Il a fallu que je revienne très rapidement dans ma cabine parce que j'étais déjà bien malade.
Ouais, c'est pas pour rien qu'on surnomme ce bateau le Gastrolab. Hein. Les premiers jours, apparemment, le bateau prend des allures de vaisseau fantôme. Tous les passagers, en tout cas ceux qui sont pas trop habitués à cette situation, se retrouvent cloués sur leur petite couchette.
Oui, c'est ça. Disons, 2-3 jours après le départ, on découvre des visages de personnes qui ont embarqué en même temps que nous à bord du bateau parce qu'en fait, ils étaient cloués dans leur cabine. Et c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps allongé parce que c'est la meilleure manière un petit peu de gérer ce gros mal de mer.
Ouais, et vous racontez qu'à bord, tout devient une épreuve, hein, ne serait-ce que pour prendre une douche.
Oui, non, c'est vrai que l'épreuve de la douche, c'est quelque chose. Il y a deux, trois petites techniques, en fait, à apprendre. Comment se bloquer dans la douche avec les coudes, comment ouais. Ranger ses vêtements pour être sûr qu'ils finissent pas au sol, baignés dans l'eau qui sort du bac de douche. Ouais. Donc, c'est intéressant.
Finalement, c'est peut-être ça l'aventure, écrivez-vous, une leçon de modestie imposée par les éléments quand le plus anodin, le plus quotidien de nos faits et gestes, manger, digérer, se laver, se déplacer, cesse d'être naturel pour se muer en exploit.
Oui, ouais, c'est vraiment ça. Se dire que on peut finir une journée en ayant fait ses repas, en étant propre aussi, c'est déjà une petite victoire sur une journée sur l'Astrolabe.
Vous aviez 23 ans quand vous embarquez à bord de ce bateau, jeune chercheuse. Vous avez pour mission d'aller relever les mesures prises par des instruments sur un immense glacier, le glacier Mertz, un glacier qui s'apprête à veler. Habituellement, ce sont les vaches hein, qui vêlent lorsqu'elles mettent bas. Qu'est-ce que ça veut dire pour un glacier de vêler?
Alors le glacier, c'est exactement comme la vache, c'est pour ça que ce mot a été repris de nos campagnes finalement. Mais ce glacier, il va avancer, il va former cette glace au fur et à mesure du temps et former aussi le futur iceberg, jusqu'à ce qu'à un moment donné, une fracture, une crevasse permette de séparer l'entité, donc le glacier, de son iceberg, qui va ensuite devenir quelque chose à part entière.
C'est-à-dire qu'il tend une langue de glace qui d'abord flotte sur l'eau et puis petit à petit, au bout d'un certain temps, se détache. Et dans le cas du glacier Mertz, cet événement survient de façon cyclique, régulièrement.
C'est ça, exactement. En fait, il y a un moment donné où la langue de glace est tellement longue et elle va se développer sur l'océan, et à cause des courants côtiers, à cause de la marée, etc., elle va subir trop de stress finalement, et toutes les fractures, les petites crevasses qui se développent à sa surface vont s'ouvrir, et là on va avoir cet iceberg qui se forme. Et pour le glacier Mertz, c'est tous les 70 ans.
Ouais. Et vous arrivez pile au bon moment finalement, concours de circonstances, hein. C'est ce que vous dit celui qui deviendra votre responsable de thèse, hein, c'est la chance du siècle, sauf mauvais coup du sort, on assistera à l'accouchement en direct. Et ça, c'est une première en glaciologie. On n'a jamais vu véler en direct avec tous les instruments pour mesurer ce qui se passe sur un glacier.
C'est ça. Et en fait, Benoît, lui, il suit cet événement depuis déjà les années 2000. Donc, ça fait quasiment 8 ou 9 ans qu'il regarde les fractures se former à la surface du glacier Mertz en se disant, tiens, on se rapproche en fait de ce cycle des 70 ans. C'est intéressant d'observer un petit peu ce qui se passe pour ce glacier et peut-être aussi de monter un projet scientifique autour du glacier Mertz pour pouvoir mesurer tous les processus qui sont liés à l'ouverture des crevasses et à la formation d'un iceberg.
Au départ, vous entrez dans ce laboratoire presque par hasard, hein, c'est un peu un concours de circonstances. Vous venez pour un stage où vous étudiez ce glacier uniquement à travers des données. De fil en aiguille, vous vous retrouvez embarqué, on vous propose de faire une thèse sur ce glacier, vous ne refusez pas, et voilà comment en octobre 2008, vous vous retrouvez à 23 ans, à bord de l'Astrolabe pour la première fois. Qui est à bord de ce bateau avec vous, les 45 passagers, qui sont ces gens qui embarquent avec vous?
Alors, il y a une dizaine de membres d'équipage, donc voilà, c'est tous ceux qui vont permettre de faire fonctionner le bateau. Il y a aussi le cuistot, les intendants, etc. Ensuite, il y a dans les passagers, il va y avoir les hivernants, donc c'est souvent des volontaires, des jeunes volontaires, qui vont partir sur la station du Mont d'Urville pour y travailler pendant un an et demi. Et on les appelle les hivernants parce qu'eux, ils passeront l'hiver en tout petit groupe d'une vingtaine, 20-25 personnes. Et ensuite, il y a les campagnards d'été. Donc eux, ça va être un mélange à la fois de scientifiques qui sont là pour des missions ponctuelles de quelques semaines à quelques mois, mais aussi tout le personnel technique qui va s'occuper de soit apporter des améliorations à la station, mais aussi de travailler au ravitaillement par le bateau, etc.
Vous ne devez faire que quelques jours sur place. Hein. Vous profitez, on appelle ça une rotation, de la rotation de ce bateau qui vient ravitailler la base du Mont d'Urville. Et vous êtes donc à bord. Un hélicoptère est censé vous transporter jusque sur le glacier pendant quelques jours. Et puis vous repartirez avec le bateau. C'est une mission éclair, en fait, hein, que vous avez à mener. Alors, à bord de l'Astrolabe, on l'a dit, hein, tout ce petit monde tant bien que mal traverse les 40e hurlant, les 50e rugissant, et puis arrive un moment où le bateau s'apaise, il atteint enfin les premières glaces de mer, ce que l'on appelle le pack. À ce moment-là, sur le pont du bateau, la bonne humeur règne.
Ça, c'est énorme, c'est vraiment le top, quoi.
Qu'est-ce qu'on voit là?
On voit un petit Adélie à qui on fait peur, et du coup qui court sur son caillou, enfin l'équivalent d'un caillou qui est un morceau de glace.
On est en train de traverser une large bande de pack relativement dense, donc c'est de la glace de mer à l'infini devant nous. Le bateau qui est en train de passer cette bande de glace épaisse d'un mètre à deux. Voilà, donc ça frotte contre la coque. Il y a des à-coups puisque le bateau tend à taper dans la glace. Puis ce spectacle aussi d'oiseaux marins qui survole ce pack à la recherche de nourriture.
Il y a un phoque là, juste à côté. C'est un Védel.
C'est ça, un phoque de Védel, c'est exactement ça. Et puis c'est Fulmar Antarctique, c'est David Ducal, c'est Pétrel Antarctique, Océanie de Wilson, Prion, des dizaines d'espèces différentes. Et puis ces couleurs, ce blanc qui n'est pas vraiment blanc, qui passe du bleu turquoise avec les reflets de l'eau là. Personnellement, ça me donne beaucoup de sensations de sérénité, de paix. Je pense que la plupart des gens, c'est ce qu'ils ressentent.
Un nouvel extrait de la série Un été en Antarctique de Nicolas Martin de France Culture. Nous étions donc sur le pont de l'Astrolabe avec le biologiste marin Jérôme Fournier. Lydie Lescarmontier, cette sérénité lorsque le bateau évolue à travers la glace de mer, vous l'avez ressenti lors de ce premier voyage ?
Oui, complètement. Et je pense que vraiment tout le monde le ressent. Bah déjà, il y a un premier fait, c'est qu'on vient de traverser 3-4 jours de mer où on a été extrêmement malade et d'un coup c'est calme autour de nous, le bateau est totalement stable et puis surtout on découvre un monde imaginaire, on a vraiment l'impression d'arriver dans un monde complètement à part qu'on a pu voir à travers des photos, des reportages, mais qui reste complètement nouveau pour nous parce que là il y a toutes les sensations qu'on n'avait pas forcément en regardant une photo qui s'ajoutent. Donc tout ce qui est l'odeur, tout ce qui est le son, les vibrations du bateau dans la glace, et ça c'est très impressionnant.
Vous écrivez, c'était comme le premier matin du monde, du blanc, rien que du blanc, à l'infini. Ce premier choc, je ne l'oublierai jamais. Rien ne vous prépare jamais à la première rencontre avec les pôles, à cette immense gifle d'absolu. L'air lui-même que j'aspirais à plein poumon avait une saveur inconnue. Fermant les yeux, j'essaie de la définir comme le nez d'un parfumeur se concentre sur une fragrance. En vain, hormis peut-être un soupçon d'iode, c'était une odeur sans odeur, juste une quintessence de fraîcheur. Il y a l'impression d'arriver sur une autre planète.
Complètement. Et c'est vrai que cette odeur que j'essaye de décrire, qui est en fait une odeur un peu de fraîcheur et de rien, c'est quelque chose que je retrouve systématiquement près des glaciers ou quand je me retrouve dans la banquise. Et d'un coup, ça me reprojette à ce moment-là. Et c'est vrai que je me rappelle vraiment arriver dans cet environnement et me dire il faut que je m'en imprègne, il faut que ça reste parce que c'est trop précieux.
Alors après cette gifle d'absolu, vous allez vous prendre un autre coup sur la tête, moins poétique celui-ci. Tout d'un coup, l'ambiance se tend à bord de l'Astrolabe. Un morceau de glace s'est pris dans une des deux hélices du bateau et ça va avoir de très fâcheuses conséquences pour vous.
Oui, complètement, puisque il faut imaginer, donc moi c'est mon tout premier embarquement, j'arrive dans la banquise, on est en train d'essayer de guetter les manchots, on découvre cet environnement, et là on nous annonce cette nouvelle, mais ça fait peut-être 24 heures ou 2 jours qu'on est maximum, qu'on est dans cette glace. Et on nous annonce qu'en fait il va falloir qu'on fasse demi-tour, parce que cette hélice est sacrifiée finalement, et on peut pas prendre de risques supplémentaires, il faut qu'on revienne en Tasmanie.
Alors on imagine la déception à ce moment-là, pour vous, Lydie Lescarmontier, tout ce temps de préparation, tous ces jours passés en mer à affronter les éléments pour rentrer bredouille. Mais vous n'en avez pas fini avec l'Antarctique, Lydie Lescarmontier. Votre programme de recherche prévoit que vous y retourniez chaque année pendant 4 ans. Ce que vous ne savez pas encore à ce moment-là, c'est que vous n'êtes qu'au début d'une longue série de péripéties et même de drames, parfois. C'est ce que vous allez nous raconter. Lydie Lescarmontier nous emmène dans les glaces de l'Antarctique cet après-midi sur France Inter, le temps d'un bivouac particulièrement mouvementé. So may we start. So may we start. It's time to start. My time to start. They hope that it goes the way it's supposed to go. There's fear in them all, but they can't let it show. They're underprepared, but that may be enough. The budget is large, but still, it's not enough. So may we start.
May we start.
So may we start, c'était Sparks sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Donc là, il est 1h30 du matin et on regarde ces glaces qui passent avant d'arriver au glacier Mertz. On regarde tous les morceaux de glace dérivant et on les voit bien clairement car il fait encore jour à 1h30 du matin.
On sent qu'on rentre dans un autre monde, quoi. C'est pas chez nous. Je pense que je vais pas aller me coucher aujourd'hui. Ça va être dur demain, mais là, c'est trop beau.
Extrait d'un documentaire de Thalassa diffusé en 2017. Les passagers d'un brise-glace russe fascinés par les glaces de l'Antarctique à l'approche du glacier Mertz. Notre invité, Lydie Lescarmentier, raconte dans un livre intitulé « La voie des pôles » chez Flammarion les expéditions qu'elle a menées pour aller étudier ce glacier Mertz. Ce glacier, Lydie, avant même de l'avoir approché, à force d'avoir étudié les cartes, les données scientifiques le concernant, vous dites que vous en étiez tombée amoureuse à ce point ?
Oui, parce qu'il est, en fait, il est porté par une histoire déjà qui est assez chargée. Et puis, c'est vrai que quand on regarde cette côte, c'est un glacier qui a une langue de glace, voilà, qui s'avance vraiment sur l'océan, qui est très visible et qui est très particulier avec cette fracture qui commence à s'ouvrir. Et oui, il attire vraiment la curiosité.
Ouais. Alors, il porte le nom d'un alpiniste suisse, Xavier Mertz, ce glacier. Pourquoi ce nom ? Quelle est l'histoire de Xavier Mertz ?
Alors, Xavier Mertz, il faisait partie de l'expédition de Douglas Mawson. Donc, ils étaient trois. Il y avait donc Mawson, Mertz et Ninis, un médecin. Et en fait, Mawson était un explorateur australien. Et donc, l'idée pour eux, c'était d'aller cartographier cette partie de la côte de l'Antarctique. Ils sont partis à trois rapidement. Ninis, en fait, est tombé dans une crevasse avec le traîneau qui était chargé des provisions. Donc,
ils ne sont plus que deux et ils ont plus de vivres.
Ils ont plus de vivres, donc ils doivent faire demi-tour. Et sur le retour, ils ont mangé leur chien et notamment le foie des chiens qui est très chargé en vitamine A. Et donc Mertz tombe malade et pendant la nuit, en fait, pendant son sommeil. Et le lendemain matin, Mawson découvre son corps et le jette dans une crevasse qui nomme du coup du même nom.
Et c'était une crevasse de ce glacier qui porte aujourd'hui le nom de Xavier Mertz. Sauf qu'il y a une rumeur, il y a une petite incertitude. Certains disent que Mawson n'aurait pas jeté le corps de Xavier Mertz dans ce glacier, mais il s'en serait nourri parce que c'est comme ça qu'il a survécu. Alors, si bien que quand vous partez en Antarctique, une fondation qui porte le nom de Mawson vous demande un peu de réhabiliter Mawson, en tout cas de le dédouaner de cet éventuel forfait, en vous disant, si vous voyez le corps de Mertz, dites-le nous. Vous aviez en plus cette mission de retrouver le corps de Mertz.
Oui, ils sont venus nous approcher quand on était encore à l'université, juste avant de partir en mission, en nous disant, voilà, on recherche ce corps parce qu'on a besoin de savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Mmh. Et d'après nos calculs, par rapport à la date de l'événement, on sait que ce corps devrait être proche, en fait, des GPS que vous devez installer. Oui. Et donc, bien sûr, on sait que, voilà, vu les dimensions du glacier Mertz, c'est quasiment impossible. Mais quand même, Benoît et moi, quand on a survolé le glacier, on s'est dit, bon, on va quand même jeter un coup d'œil.
Il y avait quand même peu de chance, hein, parce que cette histoire s'était produite un siècle plus tôt. Hein. On peut imaginer quand même que le corps avait disparu, enseveli dans les glaces. Votre mission principale, c'était évidemment d'aller rechercher ces GPS qui avaient été disposés 2 ans auparavant pour récupérer les données recueillies et comprendre ce qui se passait au niveau de ce glacier. Cette fois-ci, ça marche. C'est-à-dire que l'Astrolabe vous amène suffisamment proche pour que les hélicoptères vous dépose sur le glacier. Mais là encore, ça se passe pas exactement comme prévu. Tous les GPS sont difficiles à retrouver. Il y en avait 4 à retrouver. Hein.
Et oui, il y en avait 4 à retrouver. Et en fait, ils avaient été installés 2 ans auparavant, donc avant ma première, l'année avant ma première mission. Et on découvre, en fait, qu'il neige relativement beaucoup sur le glacier Mertz. À tel point qu'en fait, on récupère une seule balise et il n'y a plus que l'extrémité de la balise. Donc vraiment les derniers centimètres qui sont encore visible depuis l'hélicoptère. Donc,
alors que c'était des balises qui devaient faire 1 mètre, 1,50 mètre.
1,50 mètre de haut, oui.
Elles ont été recouvertes.
Complètement recouvertes de neige. Donc on voit qu'il y a à peu près 1 mètre de neige par an. Et pour récupérer notre récepteur GPS, on est obligé en fait de creuser finalement dans la neige pour le sortir. Et c'est le seul qu'on aura récupéré sur les 4.
Tout de même, qu'est-ce que vous avez ressenti quand enfin, après 2 ans d'études à distance de ce glacier dont vous étiez tombée amoureuse, vous avez enfin pu fouler la glace du Mertz?
C'était très particulier, surtout que je m'attendais pas vraiment à ce type de paysage, parce que se poser sur le glacier Mertz, c'est bon, bien sûr, c'est du blanc à l'infini, on voit plus la côte, on voit voilà vraiment un désert, et il y a des sastrugis qui sont en fait des petites dunes qui sont formées à la surface du glacier, qui donne vraiment cette impression de Sahara, de désert chaud. Mmh. Et ça, c'est très impressionnant.
Ouais. Alors, vous ne rentrez pas bredouille de cette deuxième expédition en Antarctique. Vous avez réussi à récolter quelques données et vous avez installé aussi de nouveaux instruments pour suivre l'évolution du glacier. Et il va évoluer beaucoup plus vite que vous ne le pensiez, Lydie Lescarmontier. 3 mois après votre retour, votre glacier s'invite dans les journaux télévisés.
Notre image du jour, elle nous emmène très loin, en Antarctique. Un énorme iceberg de la taille du Luxembourg s'est détaché d'un glacier il y a de cela quelques jours. Auparavant, il avait été percuté par un autre iceberg géant d'une centaine de kilomètres de long. Un événement qui n'est pas directement lié au réchauffement climatique, mais il y a forcément une relation. Le cisaillement du glacier de Mertz et la présence de 2 icebergs mobiles dans cette zone auront plusieurs conséquences, notamment sur la fameuse colonie de manchots empereurs. Souvenez-vous, rendu célèbre par le film de Luc Jacquet, La marche de l'empereur.
Extrait du 19-20 de France 3 en février 2010, le glacier Mertz vèle, mais d'une manière que vous n'aviez pas imaginée, Lydie Lescarmontier. Encore une fois, ça ne se passe pas comme prévu.
Non, mais c'était le cas chaque année finalement. Il y avait ce fameux iceberg, l'iceberg B9B, qui était installé sur des hauts fonds, donc des petites montagnes sous-marines, depuis plus de 20 ans. Et en fait, il faisait complètement partie du paysage, on le regardait même plus parce qu'il faisait partie des cartes. Et en fait, cet iceberg, de façon complètement inattendue, il s'est mis à bouger quelques jours avant le vélage du Mertz et à tourner. Et en tournant, en fait, il est venu taper dans la langue de glace du glacier et donc ouvrir les derniers kilomètres de fracture et donc former l'iceberg.
Le vélage se fait par accident. On pourrait dire que l'accouchement se fait au forceps, mais avec un beau bébé. Hein, la taille de cet iceberg est gigantesque. Donnez-nous un peu les dimensions de cet iceberg.
Alors, le glacier, déjà, il fait 150 kilomètres de long par 35 km de large. Et là, il vèle un iceberg qui fait 80 km de long par à peu près 35 km aussi de large.
400 mètres d'épaisseur. Pour comparer, c'est la taille de... Vous comparez ça à l'île de la Réunion.
Oui, c'est ça. Oui, ouais, complètement.
C'est gigantesque comme iceberg. Et se trouvent dessus les instruments que vous aviez posés. Donc là, vous vous dites, Lydie Lescarmentier, mais je vais faire la thèse du siècle. J'ai appareillé ce glacier de GPS d'un côté et de l'autre de la fracture. Et voilà qu'il vient de se détacher. Je vais avoir des données formidables. Sauf que votre histoire, c'est vraiment les montagnes russes émotionnelles. Et à partir du moment où vous voulez retourner sur ce glacier, là encore, vous vous heurtez à tout un tas de complications et de difficultés.
Ah oui, jusqu'au bout, ça aurait été compliqué. Donc, il faut imaginer qu'on est au mois de février, donc il y a cet événement qui a lieu, et en fait, c'est en plein milieu de la saison d'été, et donc l'Astrolabe est utilisé en permanence. On est déjà très en retard sur les calendriers, et donc l'Institut Polaire décide de pas aller proche du glacier Mertz pour...
Et puis de ne pas vous embarquer, surtout ils ne veulent pas vous embarquer pour que vous puissiez aller regarder votre glacier. Alors vous êtes obligé d'attendre, vous allez attendre octobre suivant, plus de 6 mois pour enfin essayer d'aller rechercher ces glaces. Et là, une fois de plus, il va y avoir des incidents, ça ne va pas être possible. Je laisse une partie du suspense à vos lecteurs, mais tout de même, vous allez devoir abandonner la mission, rebrousser chemin. Et il va y avoir beaucoup plus grave cette fois-là. À bord de l'Astrolabe, la décision est prise d'envoyer, puisque le bateau est bloqué, ne peut pas avancer, la décision est prise d'envoyer les deux hélicoptères pour assurer le ravitaillement de la base du Mont d'Urville. Et l'on entend à nouveau parler de l'Antarctique au journal télévisé du soir, mais cette fois pour annoncer un drame.
Hier, en fin d'après-midi en Antarctique, deux hélicoptères quittent l'Astrolabe, le navire qui les a cheminés pour effectuer la relève et le ravitaillement de la base du Mont d'Urville. Les conditions météo autour du bateau et de la base d'arrivée sont jugées bonnes par les équipages. Les hélicoptères prennent leur envol à 20 minutes d'intervalle. Le premier rejoint du Mont d'Urville après 1h30 de vol. Le second n'est jamais arrivé. Sa balise de détresse est déclenchée à 100 km de la base.
Un avion américain et un avion australien ont survolé la zone malgré le mauvais temps. Et les conclusions, donc ce qu'ils ont pu observer, soit par des images radar, soit par une vision directe du lieu de l'accident, c'est qu'il s'agissait effectivement d'un accident et non pas d'un posé volontaire de l'hélicoptère, que malheureusement l'hélicoptère était très fortement endommagé, et malheureusement également, ils ont pu apercevoir trois corps autour de l'épave.
La voix affectée, on le comprend, de Yves Frénaud, qui dirigeait l'Institut Polaire à cette époque. Le corps sans vie du quatrième occupant de l'appareil est retrouvé peu après. Une chapelle ardente est dressée à la base scientifique du Mont d'Urville. Lydie Lescarmentier, on sait aujourd'hui ce qui est arrivé à cet hélicoptère?
Oui, en fait, on l'a compris très très vite. En fait, c'est un phénomène météorologique qui s'appelle le jour blanc. Et c'est assez craint, en fait, des pilotes, d'ailleurs. Puisque c'est un moment, en fait, où quand le mauvais temps arrive, on ne voit plus du tout l'horizon. Donc, il n'y a plus de différence entre la banquise en bas et le ciel blanc en haut. Et comme en hélicoptère, la navigation se fait à vue, et ben les pilotes peuvent se perdre dans ces... trois dimensions.
Alors vous avez vu cet hélicoptère décoller de l'Astrolabe. On imagine la chape de plomb qui s'est abattue sur le brise-glace à ce moment-là. Ça a ébranlé votre motivation. Vous vous êtes interrogé sur ce que vous faisiez là, à prendre ces risques pour étudier ce glacier.
Oui, je pense qu'on s'est tous interrogé. Oui, c'est sûr qu'on peut pas rester de marbre face à un événement comme ça, parce que Voilà, il faut imaginer qu'on est dans un environnement magnifique, on est tous heureux d'être là, on a tous voulu être là. Et c'est vrai que quand il y a ce genre d'événement, ça nous rappelle déjà qu'on ne maîtrise pas toute la situation. On est en Antarctique et on est encore à la merci de ce milieu. Et ça, forcément, ça nous fait réfléchir à qu'est-ce qu'on fait là, est-ce que ça vaut vraiment la peine ?
Vous avez manifestement répondu à cette question positivement. Ça vaut la peine puisque vous allez repartir l'année suivante. Et là encore, ça ne se passera pas comme prévu. Vous allez, Lydie Lescarmentier, nous raconter comment vous vous êtes retrouvée prisonnière, cette fois des glaces de l'Antarctique. Vous écoutez France Inter, le temps d'un bivouac. C'était Zero Seven sur France Inter.
Pour toi, est-ce que le cap est bon pour entrer dans le pack ?
L'affirmatif, tu pourrais même venir de 10 degrés sur la droite.
En reçu, je prends 10 degrés sur la droite.
La navigation dans la glace, c'est pas difficile, c'est simplement qu'il faut vraiment anticiper pour pas se retrouver bloqué dans des plaques de glace de grande épaisseur. Donc c'est plus tactique et dans l'anticipation que vraiment une difficulté en termes de rudesse des éléments. Quoi. Puis ce qui est beau, c'est tous ces albatros qui passent là, ces énormes albatros. Il y en a un qui fait plus de 3 mètres d'envergure là. C'est très majestueux. Pas un mouvement d'aile. Ah, c'est incroyable.
À nouveau, François Tristram, le commandant de l'Astrolabe, avec cet extrait « Un été en Antarctique » de Nicolas Martin sur France Culture. Je précise que cette série de reportages de Nicolas Martin est encore podcastable. Nous avons mis un lien sur la page du Temps d'un bivouac sur franceinter.fr. Lydie Lescarmentier, comme on l'entendait, c'est tout un art de naviguer dans le pack de glace qui borde le continent blanc.
Oui, oui, et puis il faut imaginer que moi, mon tout premier embarquement, on n'avait pas encore de carte satellite en fait de la banquise. Ouais. Donc c'était vraiment de la navigation à vue.
On était pourtant dans les années 2010, entre 2008 et 2011, hein, vous avez
oui,
fait ce voyage.
Oui, c'est ça, oui, c'est pas si vieux que ça. Ouais. Et il faut imaginer que du coup, ben, souvent, les membres d'équipage étaient avec les jumelles un petit peu en hauteur pour essayer de voir où est-ce qu'on peut passer. Donc ça reste très proche en fait des façons de naviguer des explorateurs.
Oui, finalement. C'est ça, on navigue à vue. Et en octobre 2011, vous repartez sur l'Astrolabe. Ça fait 3 ans hein, que vous travaillez sur ce glacier Mertz à ce moment-là, avec peu de résultats, beaucoup d'aventures, mais pas beaucoup de résultats. C'est votre 4e expédition. À bord, avec votre responsable de thèse, on vous surnomme un peu les chats noirs, parce que à chaque fois que vous êtes monté à bord de ce bateau, ça s'est pas passé exactement comme prévu. Et une nouvelle fois, ça ne va pas se passer comme prévu. Qu'est-ce qui vous arrive cette fois ?
Alors cette fois-ci, on est resté coincé sur le bateau, pris par la banquise pendant 56 jours. Ce qui paraît pas non plus incroyable.
Quand même, deux mois sur ce bateau, bloqué dans les glaces.
Ça fait quand même la moitié de la campagne d'été, oui, effectivement.
Ça paraît long, c'était pas prévu comme ça. Au bout d'un moment, les vivres viennent à manquer à bord du bateau.
Oui, oui, c'est ça. C'est qu'on n'était pas prévu de rester aussi longtemps, aussi nombreux sur le bateau et sans aller-retour jusqu'à Hobart, en fait, pour récupérer d'autres vivres. Et surtout, on savait absolument pas à quel moment ça allait se finir. Parce qu'encore, on aurait embarqué, on nous aurait dit, vous restez 2 mois à bord, on serait préparé, mais là c'était chaque semaine. Bon, bah finalement, il va falloir attendre 2 jours de plus et 2 semaines de plus.
Et vous avez l'impression, voilà, quelque chose de sans fin, d'immobile pour économiser le carburant, parce qu'on génère l'électricité à bord du bateau avec le carburant, mais parfois on coupe les moteurs. Donc là, silence absolu sur cette banquise. Vous dites que parfois, par les hublots, vous avez l'impression qu'on a collé des posters tellement le paysage autour de vous ne bouge pas. Quelle est l'ambiance à bord de ce bateau transformé un peu en vaisseau fantôme?
Mais elle est très particulière parce que en fait chacun a un petit peu sa manière de gérer ce confinement finalement sur le bateau. Donc il y a des personnes qui vont être très occupées. Moi par exemple, j'étais en train de finir ma thèse, donc je finissais mon manuscrit, je travaillais énormément. Il y en a d'autres qui au contraire se mettaient vraiment à l'écart, se mettaient à la lecture et se mettaient à l'écart du reste du groupe, à essayer de prendre du temps, puis un petit peu s'isoler aussi parce que on est tous au contact toute la journée. Et oui, l'ambiance est assez nébuleuse finalement.
Ouais. Et alors, ce qu'on apprend là, c'est que votre thèse, vous avez quand même réussi, et c'est un tour de force, à la soutenir, et en plus brillamment, avec le peu de données que vous avez réussi à récolter sur ce glacier finalement.
Oui, je me suis dit, j'ai peu de données, mais ces données, je vais les faire parler au maximum. Et donc, j'ai vraiment poussé en fait la précision dans l'analyse. Et grâce notamment à des collègues du CNES qui travaillaient sur des données GPS et des systèmes de traitement, j'ai réussi à apprendre pas mal de choses. Ouais.
Ouais. Ah, ça vous a appris en tout cas la ténacité à ne jamais renoncer à cette aventure. Et finalement, ces instruments de mesure que vous aviez posés sur ce gigantesque iceberg, vous ne les avez jamais récupérés?
Non, jamais. On a essayé plusieurs fois de retourner avec d'autres bateaux aussi que l'Astrolabe, de retourner sur cet iceberg et récupérer les GPS. Mais après, il faut imaginer qu'il a neigé, donc on s'est dit que rapidement ils allaient être sous la neige. Il a aussi, la neige a aussi fondu en surface, donc toutes les aspérités et crevasses et tout ont complètement changé. Donc très rapidement, on s'est dit c'est impossible, même si on y va, on n'arrivera jamais à les récupérer. Et puis cet iceberg s'est aussi cassé.
C'est ça, parce que cette histoire a 10 ans maintenant et l'iceberg a évolué, il s'est fragmenté en des milliers de glaçons. Vous ne reverrez jamais ces données.
Non,
vous
en avez fait votre travail. Il faut l'accepter.
Ouais, vous allez quand même par la suite retourner en Antarctique dans le cadre d'autres missions scientifiques en tant que glaciologue. Vous allez encadrer des thèses. Depuis, vous avez abandonné la recherche, mais pas votre passion pour les pôles. D'ailleurs, vous êtes allé dans l'Arctique en tant que guide conférencière. Je laisse le soin à un grand nom de l'aventure polaire, Paul-Émile Victor, de nous dire comment faire la différence entre l'Arctique et l'Antarctique.
Du point de vue géographique, l'Arctique est une mer entourée de terres, ces terres étant habitées par des populations indigènes, les Esquimaux. L'Antarctique, au contraire, est un continent au lieu d'être une mer, un continent où il n'y a pas d'habitants, et plus précisément où il n'y a pas de mammifères terrestres. Il n'y a par exemple pas d'ours blancs dans l'Antarctique, alors qu'il y a des ours blancs dans le nord. Et pour faire une définition un peu humoristique, qui pourtant est vrai. Si vous êtes dans une terre polaire sans savoir où vous êtes, si vous vous trouvez tout à coup nez à nez avec un ours blanc, c'est que vous êtes dans l'Arctique. Si vous vous trouvez nez à nez avec un pingouin, un manchot plus exactement, c'est que vous êtes dans l'Antarctique.
Paul-Émile Victor, en 1948, Lydie Lescarmentier, vous avez rencontré des manchots en Antarctique. Est-ce que vous avez rencontré des ours polaires en Arctique ?
Oh oui, oui, oui. Putain, oui, oui, effectivement.
Et c'est un souvenir plus impressionnant que les manchots ?
Oui, c'est un petit peu plus stressant effectivement que les manchots parce que les ours sont voilà, ils ont une carrure incroyable, ils ont une intelligence aussi qui est incroyable. Ils sont prêts à mettre en place des petites tactiques pour s'approcher de nous. Donc ils sont assez remarquables.
Aujourd'hui, hein, vous n'êtes plus chercheuse, Lydie Lescarmentier, mais vous mettez vos qualités de scientifique et de pédagogue au profit d'une ONG, Office for Climate Change, qui fait de la vulgarisation scientifique, qui sensibilise les écoles dans le monde entier. Au changement climatique. Finalement, le pôle sud puis le pôle nord reste un axe de votre vie.
Complètement, ouais. C'est vrai que j'étais assez contente de pouvoir garder un petit peu toutes mes connaissances en fait de glaciologue et de pouvoir les mettre à profit et surtout de les partager avec le grand public et notamment les enfants qui sont en France ou un petit peu partout dans le monde.
Et puis vous les partagez avec votre ouvrage, hein, vraiment passionnant, ça se lit comme un roman et en plus régulièrement il y a des points scientifiques pour qu'on apprenne des choses sur la formation de la glace. Le livre s'intitule La Voix des Pôles aux éditions Flammarion. On a mis quelques photos de vos différentes missions sur la page Facebook du Temps d'un Bivouac, pour ceux qui, après avoir eu le son, voudraient avoir l'image. Restez avec nous, dans un instant, Éric Birloez nous emmène dans une nouvelle odyssée savoureuse. Il nous emmène aujourd'hui sur les routes de l'ail. C'était Cassidy qui chantait Souterrain et la programmation musicale du temps d'un bivouac est signée Muriel Pérez.
Sens-moi ça, ça sent bon, ça sent le jardin, ça sent les quatre saisons, ça sent la terre.
Bonjour Éric Birloez.
Bonjour Daniel.
Notre sociologue de l'alimentation que nous retrouvons tous les lundis pour partir sur les traces d'un aliment que nous connaissons mais qui a voyagé pour arriver jusqu'à nous. Et aujourd'hui, à quel aliment allons-nous nous intéresser avec vous ?
Eh bien, c'est de l'ail dont il va être question aujourd'hui. Un légume condiment qui est très présent dans les plats du midi et dans ceux du sud-ouest. Vous pensez à l'ail au lit, les tomates provençales, la brandade de morue, qu'elle soit nîmoise ou sétoise, le cassoulet, bien sûr, le tourin à l'ail. Bref, l'ail, c'est le parfum du sud. Mais bien d'autres plats que ces spécialités méridionales font de l'ail un ingrédient incontournable. Que serait, je vous le demande Daniel, un rôti de bœuf ou un gigot d'agneau sans les lamelles d'ail que l'on insère dans la viande avant de la passer au four? Et sans parler des farces qui accompagnent les volailles, les escargots ou encore les moules.
Mais cet ail, Éric, d'où vient-il? Depuis quand les hommes le consomment-ils?
Eh bien, son origine géographique, elle se situe bien loin de la Provence et de la Gascogne. L'ail est né en Asie centrale, une très vaste région en forme de croissant qui s'étend de la mer Caspienne jusqu'aux confins de la Chine. Il y a plus de 4000 ans, les habitants du royaume de Babylone, en Mésopotamie, consommaient déjà l'ail de façon régulière. Les Égyptiens, eux aussi, l'avaient intégré à leur menu. Ils étaient convaincus que le modeste petit bulbe prodiguait une grande force physique. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'ail faisait partie de la ration distribuée aux ouvriers qui ont édifié la pyramide de Khéops. C'était il y a longtemps, il y a 4600 ans.
D'accord.
Toujours en Égypte, l'ail était représenté sur les peintures qui ornaient les murs des tombes, tombes dans lesquelles on a aussi retrouvé des têtes d'ail entortillées de bandelettes comme les momies.
Tiens donc, et quelle était la place de l'ail dans les autres civilisations de l'Antiquité ?
Eh bien, en Europe, les Grecs, les Romains faisaient eux aussi un grand usage de l'ail, comme les Égyptiens, ils lui attribuaient le pouvoir de donner de la force aux guerriers, aux athlètes, aux travailleurs manuels et aux coqs de combat. Mais enfin, l'ail avait quand même un gros défaut.
Oui.
L'odeur forte qu'il donnait à l'haleine et à la sueur.
Ça n'a pas changé. Hein.
Non, et c'est à cause de cela qu'il était déjà à l'époque peu apprécié par l'aristocratie romaine. Même chose chez les Grecs anciens. Les prêtres avaient interdit l'entrée de certains temples à ceux qui venaient de manger, je cite, la rose qui pue.
Ah ouais. Ce mépris aristocratique vis-à-vis de l'ail a-t-il persisté ?
Ah bah oui, absolument. Dans la France du Moyen-Âge, l'ail occupait une place importante dans l'alimentation des paysans, des travailleurs des villes, mais il était très peu consommé par les membres de l'aristocratie médiévale, de la noblesse. Outre les inconvénients olfactifs, deux autres raisons expliquaient ce dédain vis-à-vis de l'ail. La première était liée au fait que l'ail, comme l'oignon, occupait justement une grande place dans l'alimentation populaire. Or, la noblesse de l'époque tenait absolument à se distinguer des gens du peuple. Ces ventres à choux, ces mangeurs d'ail, c'était comme ça que les puissants appelaient avec mépris les paysans. Et puis l'ail était frappé d'un autre défaut symbolico-religieux. En effet, sa partie comestible, comme tout le monde le sait, se trouve sous la terre. Or, pour les mentalités du Moyen-Âge, la terre représentait l'élément de la création divine, le moins noble de tous. Elle était associée aux enfers, au diable, alors que l'air, lui, était associé à Dieu.
Et est-ce qu'on n'attribuait pas à l'ail quelques qualités malgré tout ?
Si, des vertus thérapeutiques, notamment à l'époque on se soignait aussi en mangeant. Les livres de recettes du Moyen-Âge donnent plusieurs recettes de sauce à l'ail. L'une des plus appréciées était l'aillée, sa composition, de l'ail, des amandes, de la mie de pain pilée ensemble et diluée dans un bouillon de légumes ou de viande. En fait, depuis l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle, l'ail n'a jamais cessé d'être célébré pour ses bienfaits sur la santé. Par exemple, il est très souvent cité en tant que panacée dans le papyrus Ebers, un traité de médecine égyptien datant de plus de 3500 ans. De son côté, Pline, le naturaliste romain, a affirmé il y a 2000 ans que l'ail, je cite Pline, neutralise tous les venins, guérit la lèpre, l'asthme et la toux. Bon, je pourrais aussi évoquer le baptême béarnais du futur roi Henri IV, le Vert-Galant, pour lui donner de la vigueur physique et sexuelle. Son grand-père aurait frotté les lèvres du nouveau-né avec une gousse d'ail et aussi une goutte de Jurançon.
Et lors d'épidémies, l'ail a aussi été utilisé.
Oui, exactement. On sait que lors des grandes épidémies de peste, de choléra, de typhus, de coronavirus... Non, l'ail était également utilisé pour purifier l'air, le débarrasser des miasmes. Les médecins qui étaient au contact direct des malades portaient un masque en forme de bec d'oiseau dans lequel ils plaçaient de l'ail. La science moderne a d'ailleurs confirmé que le principal constituant actif de l'ail, l'allicine, est efficace contre certaines bactéries. Et puis, au-delà de ses effets thérapeutiques réels ou supposés, L'ail a souvent eu la réputation d'éloigner le mal, y compris lorsqu'il prenait la forme du mauvais œil ou des individus malfaisants, du diable, des sorcières ou encore des vampires suceurs de sang humain.
Ah oui, l'ail a aussi, je crois, marqué notre vocabulaire.
Oui, et de façon surprenante, car il est à l'origine du mot chandail, ce pull en tricot de laine à manches longues que l'on passe par la tête. Le rapport du chandail avec l'ail est expliqué par le très sérieux Centre national de ressources textuelles et lexicales du CNRS. Selon lui, le mot chandail est apparu dans la langue française en 1894. Ce type de vêtement, fabriqué à Amiens, était porté par les marchandailles des Halles, qu'on appelait de façon abrégée des chandails.
Et, ben voilà. Et aujourd'hui, en cuisine, il y a ail et ail.
Oui, en dehors de l'ail cultivé, Allium sativum en latin, on trouve aussi en France deux espèces d'ail sauvage qui sont relativement répandues. L'ail des ours et l'ail rocambole, qu'on utilise parfois comme condiment ou pour décorer l'assiette, car on n'en consomme que les feuilles et les fleurs. Certains types d'ail cultivés bénéficient d'un label officiel de qualité et d'origine. Le plus ancien, le plus médaillé, il possède notamment un label rouge, c'est l'ail de Lautrec, dont la production était déjà pratiquée au XVIIe siècle entre Castres et Albi. On peut aussi citer l'ail de la Drôme, l'ail blanc de Lomagne, l'ail violet de Cadour, tous deux cultivés aux confins du Gers, du Tarn-et-Garonne, de la Haute-Garonne, et aussi l'ail fumé d'Arleux, qui est produit dans une zone située à cheval sur les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Il se caractérise, cet ail d'Arleux, par sa couleur rousse et son goût particulier. Les os sont d'abord tressés, puis exposés pendant une semaine à la fumée d'un feu de copeaux de chêne, de tourbe et de paille.
Oui, un ail des os, vous faites bien de nous le rappeler. Merci Éric Birloez. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Petite et grande histoire des légumes aux éditions Quae. Merci, à la semaine prochaine Éric.
À la semaine prochaine Daniel.
On se quitte en musique avec Anne Brown, Island Blues sur France Inter.
Les loups trésors, est-ce qu'elle est là?
C'était Island Blues, Dan Brown. Le temps d'un bivouac replie sa tente. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédents épisodes en podcast. Merci pour tous vos messages sur la page Facebook du temps d'un bivouac et sur la page de l'émission sur franceinter.fr. À demain pour de nouvelles aventures.